Je propose qu'on commence par chanter le cantique sans cesse dans les reflets. On va continuer à étudier ce thème qu'on vous a proposé pour l'année sur l'adoration, la louange, les sacrifices. Et donc, on m'a demandé de proposer de préparer un message pour aujourd'hui sur ce thème-là. Et vous savez, l'idée c'est d'avoir chaque mois un aspect différent de cette question-là dans différents livres. De la Bible avec différents passages, et donc on avait vu le Lévitique il y a un mois, et on continuera je crois la semaine prochaine sur cette question du Lévitique, les sacrifices, et je resterai dans le Pentateuque aujourd'hui avec en regardant le livre de l'Exode. Et le livre de l'Exode m'interroge, et c'est une réflexion qui est lié à cette histoire du livre de l'Exode, qui, comme le nom l'indique, hein, une histoire de liberté et une histoire de rachat du peuple qui était en esclavage en Égypte, et puis Dieu fait sortir le peuple d'Égypte et lui donne sa liberté. Et on peut se demander, alors, quelle liberté c'est exactement? Est-ce que c'est seulement la liberté de l'esclavage? Alors, c'est déjà énorme, hein. Mais c'est aussi d'autres aspects de la liberté, et je pense qu'on en a aussi un peu parlé dans notre culte ce matin. C'est aussi la liberté de connaître Dieu, la liberté de nourrir leur âme de la gloire de Dieu, et puis de grandir dans la sainteté grâce à ce que Dieu va leur donner. Et le Lévitique fait partie de l'histoire du peuple après le fait qu'il soit sorti d'Égypte, et la liberté finalement d'adorer. Et on vient de chanter ce chant, hein, « Je suis né pour te louer ». Et « Je suis né pour te louer », c'est finalement la réponse au sens de la vie. On se pose la question, mais pourquoi on est là? Eh bien, on vient de chanter exactement pourquoi Dieu nous a créés, et la réponse que Dieu donne au sens de la vie. Et dans le livre de l'Exode, cette fois, Dieu dit qu'il faut que le Pharaon laisse aller le peuple pour qu'il me serve. On peut aussi traduire « pour qu'il me rende un culte ». Et c'est le but vraiment de cette liberté qui est donnée au peuple, c'est qu'ils adorent Dieu, et c'est la raison pour laquelle il a créé l'humanité, c'est qu'il veut des adorateurs. Et pourtant, on sait dans la Genèse que l'humanité a été créée pour adorer et a échoué dans cette mission, et le but du salut, ça va être de restaurer cette relation pour qu'on puisse à nouveau adorer. Et dans l'Exode, on a aussi ça, hein, le fait que on sort l'esclavage, le peuple sort de l'esclavage pour aller célébrer une fête dans le désert. Ça, c'est dans le chapitre 5 de l'Exode. Aller dans le désert pour adorer Dieu, pour célébrer une fête. Et je relisais dans le début du livre de l'Exode, hein, la façon dont dont le peuple se comporte quand on leur dit que Dieu a entendu la souffrance du peuple. Et c'est donc au chapitre 4, au verset 31, le peuple apprit que l'Éternel avait visité les fils d'Israël et qu'il avait vu leur affliction. Dieu se soucie du peuple, Dieu regarde particulièrement ce qui se passe, et voilà, a vu leur affliction, il a vu comment ils souffraient. Et alors là, la réponse immédiate du peuple, c'est de s'incliner, de se prosterner. Dieu se soucie d'eux, alors ils veulent l'adorer. Et c'est beau de voir que immédiatement après la sortie d'Égypte, le premier cantique qui est dans la Bible, c'est dans Exode 15, c'est aussi ce chant en reconnaissance d'être sorti d'Égypte. Et donc le but du salut, la rédemption, c'est bien de créer cette communauté d'adorateurs, ce peuple d'adorateurs en particulier dans le livre de l'Exode, on le voit. Et ce que je voulais voir aujourd'hui, c'est comment ça se fait que, alors qu'on sait ça, alors que tout le début du livre de l'Exode nous parle de ce salut, de ce rachat dans le but de louer, on arrive au chapitre 32, et c'est celui sur lequel je m'attarderai aujourd'hui. Après avoir vécu tant de choses, la sortie de l'esclavage, après avoir vécu dans la présence de Dieu, présence majestueuse au Sinaï, après avoir entendu la loi, ce peuple que Dieu vient de faire sortir d'Égypte échoue dans sa mission d'adoration. Ils viennent de vivre des choses merveilleuses. Et au chapitre 32, c'est l'épisode du veau d'or. Et c'est l'échec de l'adoration. On se trompe et ils louent un autre Dieu. Ils se font une idole. Comment ça se fait ? Comment on en arrive là ? Et je pense à ce texte aussi par rapport à nous et en se disant, mais finalement, est-ce que ça nous concerne aussi, cette histoire du veau d'or ? Et est-ce qu'on peut se tromper dans notre adoration ? Est-ce qu'on peut avoir une adoration qui finalement est mal dirigée ? On aime bien chanter, on l'a encore montré ce matin, mais il me semble que c'est pas tellement ça qui est important, d'aimer bien chanter ou de bien chanter même. On peut beaucoup s'entraîner, beaucoup répéter, et c'est très bien qu'on le fasse. Mais si finalement notre cœur est occupé ailleurs qu'à adorer le vrai Dieu, eh bien voilà, notre louange, elle ne compte pas. Et on n'est pas en train de rendre gloire à Dieu. Et finalement, notre louange peut être creuse aussi. Et cette question de l'idolâtrie, elle est préoccupante parce que elle vient, on le voit, de manière très très insidieuse et très surprenante pour moi. Vraiment, ça me semble très paradoxal de voir ce peuple qui a vécu ces choses et qui arrive dans l'échec de l'adoration. Alors, Calvin disait que le cœur humain, c'est une fabrique d'idoles. Et donc, on se dit, finalement, c'est peut-être un résumé de la façon dont on est. Et on va voir que c'est en partie vrai, et voir comment Dieu finalement traite cette question aussi, comment il répond à cette question de l'idolâtrie. Alors, on sait aujourd'hui, je pense qu'on a déjà eu pas mal de réflexions dans cette église sur l'idolâtrie, sur les formes qu'elle peut prendre. On a, vous rappelez le petit livre de Tim Keller, je pense qu'il avait été déjà présenté plusieurs fois, sur les différentes formes d'idolâtrie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la façon dont on fonctionne, on n'a pas forcément les petites statuettes ou le veau d'or devant lequel on va se prosterner, mais on a d'autres formes d'idolâtrie. Et il y a finalement les relations avec les autres. Par exemple, si on met la vie des autres comme vraiment la première chose que l'on doit rechercher, alors on veut plaire, et pour plaire, parce qu'on a besoin de cette reconnaissance, alors on va faire tout un tas de choses pour plaire non pas à Dieu, mais pour plaire aux autres, parce que notre identité en dépend, notre statut social, etc. Ça peut être aussi, peut-être notre service même dans l'Église, parce que si notre statut en dépend, encore une fois, eh bien on veut faire tout un tas de choses, parce que c'est notre identité, et pas tellement parce qu'on veut répondre à l'appel de Dieu, et on se définit plus par des obligations, et une sorte d'identité qui se définit par ce qu'on fait. Et finalement, si on veut résumer, l'idolâtrie, c'est, ou tout ça, pas forcément l'idolâtrie, mais une idole, un dieu, c'est ce vers quoi on se tourne pour trouver le bien, ce dont on attend la réponse pour définir le bien. Et puis, ce vers qui nous nous tournons, ce vers quoi nous tournons quand on est dans la détresse. Où est-ce qu'on va chercher du soutien ? Et c'est là notre Dieu. Et donc, ce vers quoi ton cœur se tourne, hein, c'est ce vers quoi tu t'accroches, tu te confies, c'est ça, ton Dieu. Alors, voilà, il y a des idoles assez évidentes, et puis il y a des idoles plus profondes et qui demandent de la réflexion. On va voir comment le peuple se tourne vers ce veau d'or et pourquoi. Alors, je propose de lire, pour commencer, hein, la parole de Dieu, donc au chapitre 32 du livre de l'Exode, et je lirai les 8 premiers versets. Quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron et lui dirent: Lève-toi, fais-nous un Dieu qui aille devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Et Aaron leur dit: Brisez les pendants d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et tout le peuple arracha les pendants d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Et il les prit de leurs mains, et il forma l'or avec un ciseau, et il fit un veau d'or de fonte. Et ils dirent: C'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Et Aaron vit le veau et bâtit un autel devant lui. Et Aaron cria et il dit: Demain, une fête à l'Éternel. Et le lendemain, ils se levèrent de bonne heure et offrirent des holocaustes et amenèrent des sacrifices de prospérité. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. Et l'Éternel dit à Moïse: Va. Descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu, et ils se sont vite détournés du chemin que je leur avais commandé. Ils se sont fait un veau de fonte et se sont prosternés devant lui, et lui ont sacrifié et ont dit: C'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Pour commencer, je m'arrêterai là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces premiers versets? En fait, quand on regarde la façon dont le peuple, ou même dans la Bible, raconte l'épisode, hein, la raison pour laquelle il donne, la raison qui est donnée pour le fait de construire, de faire ce veau, et se détourner de Dieu, c'est d'abord parce qu'ils ont un sentiment de ne plus être reliés à Dieu. Ils attendent, et Moïse, qui était celui qui les a fait sortir du pays, et qui à l'époque était le médiateur, celui qui permettait de prier Dieu, qui faisait l'intercession entre le peuple et Dieu, parce qu'il n'y avait pas encore le tabernacle, il n'y avait pas encore tout ce qu'on a vu ensuite dans le Lévitique, tout ça n'était pas encore construit. Et donc c'est Moïse qui faisait le lien, et Moïse n'est plus là. Et ils attendent, et Moïse, voilà, ils disent: Mais. Voilà, on ne sait pas où il est. Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. C'est trop long. Et ils attendent et on ne sait pas ce qui est arrivé. Comme il n'y a pas le tabernacle, ils ne peuvent pas demander à Dieu, ils ne savent pas s'adresser à Dieu tout seul. Et Moïse, voilà, n'est pas là pour le faire. Et donc, comment rentrer en contact avec Dieu? Eh bien, il va falloir trouver un moyen. Et donc, ils ont l'idée de se faire leur propre tabernacle, en quelque sorte. Ils disent, bah, puisqu'il n'y a plus Moïse, et qu'on ne sait pas faire, on va inventer. On va faire quelque chose. Et ironiquement, au même moment, Moïse est sur la montagne, et là, il est en train de recevoir les instructions pour justement construire le tabernacle. Donc, ils n'ont pas la patience d'attendre que Moïse redescende, mais voilà, en fait, ils veulent la même chose quelque part. Moïse est en train de redescendre avec les instructions, en tout cas, il est en train de les recevoir, et eux, eh bien, ils veulent le faire, mais Moïse n'est pas encore là. Et donc, ils vont faire leur propre tabernacle, leur propre lieu de rencontre entre Dieu, le ciel, et puis la terre. Ce qu'ils veulent, c'est, quand ils parlent à Aaron, ils disent, hein, lève-toi, fais-nous un Dieu qui aille devant nous. Et en fait, c'est ce que Dieu voulait faire. Il voulait aller devant eux. Mais voilà, il y a cette impatience du peuple. Alors, c'est pas pour dédouaner le peuple, hein, mais on a l'impression quand même que le veau d'or, à la base, quand on regarde, c'est pas tellement un dieu qui se construise, mais c'est la représentation d'un dieu, ou en tout cas là où Dieu pourrait prendre appui. Et dans leur pensée, c'est peut-être pas forcément tout de suite une idole qui devait remplacer Dieu, mais plutôt un moyen d'avoir accès à Dieu. Ils se disent, bah, voilà, puisqu'on ne peut pas, puisqu'on ne sait pas faire, puisque Moïse n'est pas revenu, on va se trouver un moyen d'avoir accès à Dieu. Ils ont ce désir quand même d'avoir accès à Dieu. Donc, voilà. Je ne dis pas que c'est rien le Vaudreuil, ce n'est pas une idole, mais j'ai l'impression quand même qu'au départ, ils ne comprennent pas vraiment la portée forcément de ce qu'ils sont en train de faire, et que le sentiment initial, certes, il est lié à de l'impatience, mais voilà, y a ce désir quand même de faire quelque chose qui finalement aurait pu être dans la pensée de Dieu, mais ils n'attendent pas justement de connaître la pensée de Dieu. Et en fait, Dieu voit très bien ça, et il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que Dieu n'accepte pas leur façon de faire. Et ce qu'il dénonce, c'est premièrement l'idée qu'ils pourraient se construire leur propre religion. Et ce qui est triste, c'est de voir que tout est détourné dans cette religion qu'ils se construisent eux-mêmes, puisque l'or, à la base, c'était l'or qui devait être utilisé pour construire le tabernacle, justement. Et là, il est employé pour fabriquer le veau d'or, l'idole. Ce qui est encore plus triste, et je pense que c'est ce sur quoi Dieu insiste beaucoup, hein, c'est ce qui est dit à la fin du verset 4, « C'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Imaginez Dieu qui a effectivement fait monter le peuple du pays d'Égypte. On dit, mais non, en fait, c'est le veau. Non. Et la fête à laquelle le peuple était invité dans le désert, et c'était au tout début du livre de l'Exode, hein, l'idée de sortir d'Égypte et d'aller faire la fête, cette fête dans le désert, et bien maintenant, elle est détournée, et au verset 5 et 6, hein, quand Aaron dit « Demain, il y aura une fête pour l'Éternel », ben c'est une fausse fête. C'est pas la vraie fête qui devait avoir lieu, cette fête vraiment de joie, de la libération. C'est une fête pour le veau d'or. Et on va louer par la suite, hein, donc, le veau pour l'honorer à la place de Dieu. Et puis, un peu plus loin, ça je ne l'ai pas encore lu, hein, au verset 17 et 18, hein, Josué entendit la voix du peuple qui jetait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un bruit de guerre au camp. Et Moïse dit, ce n'est pas un bruit de cri de victoire, ni un bruit de cri de défaite. J'entends une voix de gens qui chantent et qui s'entre-répondent. Et en fait, ils sont en train de chanter, non pas le cantique qui avait été fait au chapitre 15, le cantique de Moïse, mais ils sont en train de chanter un autre cantique, et ce cantique-là, il n'est pas adressé à Dieu, mais il est adressé au veau d'or. Et là, la réaction de Moïse est sans ambiguïté, hein, sur le fait que ce qu'ils ont fait est grave, hein. Et je dirais juste le verset 31. Moïse se tourna vers l'Éternel et dit « Hélas, ce peuple a commis un grand péché et ils se sont fait un dieu d'or. » Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, la Bible en parle à d'autres moments. Je pensais à ce psaume aussi, hein, qui raconte bien cette histoire, à quel point cette histoire a marqué l'histoire du peuple. C'est que le psaume 106 raconte à nouveau, hein, cet épisode, au psaume 106, au verset 19, ils firent un veau en Horeb et se prosternèrent devant une image de fonte. Et ils changèrent leur gloire en la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des choses merveilleuses dans le pays de Cham, des choses terribles près de la mer Rouge. Ils l'avaient oublié et ils se sont fait le veau d'or à la place. Alors, voilà, juste une pensée, hein, c'est que la première raison de ça, c'est certainement l'impatience. L'impatience par rapport au timing qui a été choisi par Dieu, et puis une sorte d'indifférence vis-à-vis de Moïse. Pourtant, Moïse était celui qui avait été choisi par Dieu, hein, pour faire cette intercession, Et le peuple, qui est impatient, veut un Dieu qu'il peut voir. Donc ils font l'image, parce que comme ça ils peuvent la voir. Ils font un Dieu qui est conforme à leurs attentes, qui est bien là au moment où eux le veulent. Et puis un Dieu qui aille devant eux. Et ça me fait penser à ce verset dans l'Épître aux Romains, où il est dit hein, de l'humanité, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée. Et là, on a l'exemple typique de ce verset, une mise en application, une illustration de ce verset. La vérité, tout ce que Dieu voulait faire, eh bien, ils l'ont détourné. Ils en ont fait une parodie, et puis ils honorent le Dieu qu'ils se sont créés plutôt que celui qui a en effet créé toute chose. Et pourtant, c'est pas faute, on ne peut pas dire que Dieu ne les avait pas prévenus. Hein. Je ne voyais pas tous les versets dans l'Exode sur l'idolâtrie, mais Dieu en parle beaucoup hein, au chapitre 20, au chapitre 23. Il y a beaucoup de versets sur de mise en garde contre ça. Mais, voilà, encore une fois, le peuple n'est pas différent de l'humanité. Et c'est pour ça qu'on peut en tirer des leçons, c'est que finalement, ils refont ce que Adam et Ève avaient fait, ils refont ce que nous aussi, nous pouvons être tentés de faire. Et on peut tirer quelques leçons de cet échec de la louange, peut-être dans nos vies. Alors, il y a différentes manières de voir ça, hein, et différentes leçons à tirer sur la façon dont nous nous comportons. Je dirais que la plus évidente, c'est le fait que nos cœurs sont finalement assez faibles, nos cœurs d'êtres humains. On peut avoir une grande joie, vivre de grandes choses avec Dieu à un moment, et c'est ce que le peuple avait vécu, et puis, immédiatement après, détrôner Dieu. Et voilà ce que le peuple a vécu, et peut-être ça concerne principalement des jeunes croyants. Il y a cette histoire hein, du semeur qui va semer, et puis voilà, l'herbe qui croît très vite, et puis finalement, ce n'est que superficiel, et puis elle va faner très vite. Bien, nos cœurs sont faibles, naturellement, il y a ce problème-là, ou cette réalité, on va dire plutôt, de nos cœurs limités. Et puis, la deuxième chose qu'on peut retirer de cette histoire, c'est le danger de croire que, et ça c'est difficile, hein, que les voies de Dieu et le timing qu'il va choisir, l'organisation, le temps qu'il va choisir, sa façon d'agir, seront nécessairement en cohérence avec ce que j'attends moi. On aimerait bien que tout colle avec ce que j'ai prévu. Je pense qu'on se dit, ben, je vais me mettre en prière, je vais faire mes projets, et Dieu va répondre dans mon organisation, et puis ça collera bien. Et le danger, c'est que si ça ne colle pas, on ait la tentation de chercher un autre Dieu à la place, un autre Dieu qui répondra mieux à mes attentes. Sauf que Dieu, il ne répond pas toujours à nos attentes, et un Dieu qui répondrait parfaitement à nos attentes, ça serait finalement une projection de nous-mêmes, de nos préoccupations, mais finalement, Dieu n'est pas comme nous. Et il faut être prêt à accepter. Et je disais, c'est difficile parce que c'est vrai qu'on a du mal à accepter que Dieu puisse nous surprendre avec un timing différent. Et que parfois, même, il nous laisse perplexes. On dit, je ne comprends pas bien. Là. Et, parce que Dieu a trois types de réponses. Hein. Quand on prie, il peut nous dire oui. Ça, c'est la réponse la mieux, la plus facile. Oui, ben voilà, c'est validé, on avance. Il peut nous dire attends. Ça, à la limite, si on entend clairement « attends », c'est un peu plus difficile, mais si on l'a compris, on se dit « bon, c'est oui, mais plus tard, bon, ça va ». Le problème, c'est la troisième, je crois, moi, en tout cas, c'est celle avec laquelle je lutte le plus, et je pense qu'on lutte le plus de manière générale, c'est la réponse où on dit « mais en fait, j'ai quelque chose de mieux pour toi ». Mais ça, souvent, on l'entend plutôt comme « non ». Mais en fait, c'est pas non, c'est j'ai quelque chose de mieux. Et ce que tu as demandé, c'est pas optimal. C'est pas le meilleur que je puisse te donner. Et là, ça demande beaucoup de foi, parce qu'on peut dire, j'aimerais bien savoir déjà quand, quoi, comment. Mais là, voilà, Dieu nous laisse parfois un peu perplexe, un peu surpris aussi de cette réponse. La troisième alerte par rapport à cette histoire, c'est que on a la tentation de prendre notre religion en main. Et c'est ce que ce que les Israélites ont fait dans le désert, on se dit, y a des choses bien dans les autres religions, il y a des choses bien dans différentes idées que j'ai entendues, et puis finalement, on oublie qu'il y a un critère primordial, c'est le critère la parole de Dieu, qui nous donne quand même un certain nombre d'indications sur ce que Dieu attend de nous. Et plutôt que d'appliquer ce critère, eh bien, on va mélanger, on va adapter, et puis on va se fabriquer notre propre religion qui nous permettra de mieux rentrer en relation avec Dieu, ou qui va remplacer le vrai Dieu par celui qui nous correspond un peu mieux, parce qu'il a des idées qui sont un peu plus conformes à celles que j'aimerais qu'il ait. Donc ça, c'est clairement une mise en garde de cet épisode, que Dieu ne peut pas accepter ça, et que en fait, il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et que c'est celui qu'on va trouver dans la parole, et qui va être notre critère principal pour passer au crible les idées qu'on peut avoir. Et puis, il y a cette idée de l'image aussi, dans cette religion-là qu'on va se créer, la représentation visible de Dieu. C'est dur de louer un Dieu qu'on ne voit pas. C'est dur de louer un Dieu qu'on ne touche pas. Et finalement, le peuple aimerait bien avoir une forme visible, concrète. On aimerait bien, il est là. Et en fait, Dieu nous incite dans sa parole à voir que la seule image visible qu'il a sur cette terre, eh bien finalement, c'est sa créature. Il nous a créé à son image. Et donc, pour voir Dieu concrètement, c'est le seul lieu, c'est la seule représentation, finalement. Nous sommes à l'image de Dieu. Et par contre, on n'a pas, nous, à créer Dieu à notre image. On ne peut pas renverser cette réalité. Par contre, il y a une réalité, c'est qu'on a été créé à l'image de Dieu, et donc on peut aussi s'entraider à voir Dieu aussi les uns dans les autres, et ensemble nous entraider à comprendre du coup comment est Dieu dans sa grandeur, dans sa diversité, dans tout ce qu'il est. Et puis, la dernière alerte, peut-être que je retirerai de cet épisode, c'est que au bout d'un moment, on arrête de parler d'idolâtrie, et que c'est quelque chose qui n'existe plus. On pense que l'idolâtrie, c'était quelque chose d'un peuple assez primitif, un peuple antique, qui n'avait pas bien compris les choses, et ça ne nous concerne plus. Et finalement, que notre idolâtrie à nous, eh bien, on essaye de la rationaliser en nous disant, on a tout un tas de justifications. Et que notre épanouissement personnel ou notre façon de nous comporter dans la société ou en société, les uns vis-à-vis des autres, puisqu'on va faire des tas de compromis, on n'a pas appelé ça l'idolâtrie, mais on va essayer de rationaliser, on va dire oui, mais c'est comme ci, c'est comme ça. Et on va mettre tout un autre discours qui finalement masque une réalité qui continue d'exister, qui est celle du remplacement de Dieu par autre chose, quoi que ce soit. Alors, ça c'est le constat, il y a ce problème de l'idolâtrie. Alors Dieu va réagir, et j'ai commencé à le lire un petit peu, mais il y a une réaction très, très vive de Dieu. Je vais peut-être continuer à lire un petit peu le chapitre 32. Je lirai une bonne portion du verset 9 au verset 29. L'Éternel dit à Moïse, « J'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple de cou roide. Et maintenant, laisse-moi faire, afin que ma colère s'embrase contre eux, et que je les consume, et je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'embraserait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec grande puissance et à main forte? Pourquoi les Égyptiens parleraient-ils disant « C'est pour leur mal qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes, pour les consumer de dessus la face de la terre ?» Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu peux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as juré par toi-même et auxquels tu as dit « je multiplierai votre semence comme les étoiles des cieux, et je donnerai à votre semence tout ce pays dont j'ai parlé, et ils l'hériteront pour toujours. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait dit et qu'il ferait à son peuple. Et Moïse se tourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de leurs deux côtés, elles étaient écrites de ça et de là, et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Et Josué entendit la voix du peuple qui jetait des cris. Il dit à Moïse, « Il y a un bruit de guerre au camp !» Et Moïse dit, « Ce n'est pas un bruit de cri de victoire, ni un bruit de cri de défaite. J'entends une voix de gens qui chantent et s'entre-répondent. » Et il arriva que lorsque Moïse s'approcha du camp, il vit le veau et les danses, et la colère de Moïse s'embrasa. Il jeta de ses mains les tables, et les brisa au pied de la montagne. Et il prit le veau qu'il avait fait, et il brûla au feu, et il moulut jusqu'à ce qu'il fût en poudre, puis il le répandit sur la surface de l'eau et en fit boire aux fils d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu aies fait venir sur lui un si grand péché ?» Et Aaron dit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'embrasse point. Tu connais le peuple, qu'il est plongé dans le mal. Or ils m'ont dit, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Et je leur ai dit, « Qui a de l'or ?» Et ils l'ont arraché et me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu. Et ils en ont sorti ce veau. Il en est sorti ce veau. Et Moïse vit que le peuple était dans le désordre, car Aaron l'avait livré au désordre pour leur honte parmi leurs adversaires. Et Moïse se tint à la porte du camp et il dit, « À moi, quiconque est pour l'Éternel. » Et tous les fils de Lévi se rassemblèrent vers lui. Et il leur dit, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun mette son épée sur sa cuisse. Passez et revenez d'une porte à l'autre dans le camp, et que chacun de vous tue son frère, et chacun son compagnon, et chacun son intime ami. » Et les fils de Lévi firent selon la parole de Moïse. Et il tomba d'entre le peuple ce jour-là environ 3000 hommes. Et encore un verset. Et Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun dans son fils et dans son frère, afin de faire venir aujourd'hui sur vous une bénédiction. Bon. Une histoire assez dure, là, de la suite de ce chapitre, hein, où il y a la réaction de Dieu. Et face à la désobéissance, le peuple avait promis d'obéir, il désobéit et Dieu sévit. Et la première chose que Dieu dit à Moïse, hein, c'est qu'il veut détruire celui qu'ils a. Il dit à Moïse, hein, c'est ton peuple. Tout d'un coup, c'est plus son peuple, il dit c'est ton peuple. Et il veut détruire ce peuple. Et Moïse plaide. Alors voilà, il demande à ce que Dieu épargne le peuple. Ce que Dieu va faire en partie, mais il y a quand même ce massacre qui est surprenant, hein, qu'on vient de lire, avec beaucoup de sang qui coule, hein, des Lévites qui vont tuer, hein, voilà, les Israélites. Et puis, par la suite, il y a une peste aussi, hein, sur le peuple. Et c'est quand même... Ouais, ça nous paraît un peu excessif. On se dit, bah, finalement... Comment est-ce que Dieu se comporte? C'était son peuple et là maintenant il y a ce massacre. Alors faut pas oublier quand on lit l'Ancien Testament que bon, on a ce regard qui nous vient de l'autre côté de la croix. Et c'est vrai qu'on regarde de ce côté-ci de la croix et on a parfois du mal avec ces récits qui sont sanglants, qui sont durs. Mais il faut pas oublier que dans toute l'Écriture, Dieu est très clair sur le fait que le salaire du péché, c'est la mort. Et à l'époque, puisqu'on est juste avant ce qu'on a lu dans le Lévitique, hein, il n'y a pas de tabernacle, il n'y a pas de système sacrificiel, et il n'y a pas de moyen objectif d'expier le péché. Et donc le peuple se retrouve face à Dieu sans moyen objectif d'expier ce qu'ils viennent de faire. Mais ce n'est pas le plus dur, je trouve, ce récit sanglant. Il est terrible. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit de plus dur dans ce récit. Ce qu'il dit de plus dur, ça vient un petit peu plus tard. C'est au début du chapitre 33, quand il dit à Moïse, hein, qu'il va faire monter un autre peuple. Mais en fait, il parle de l'histoire d'Israël, hein, il dit « Je ne monterai pas au milieu de toi. » car tu es un peuple de cou roide. Et il dit, je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin. Et ça, c'est le plus dur. Parce que Dieu qui avait fait sortir Israël d'Égypte, Dieu qui devait être au milieu d'eux, et finalement là, il leur dit, mais je ne serai plus mon peuple. Je ne serai plus là. Et cet abandon, c'est ce qu'on pourrait vivre de plus terrible, l'abandon de Dieu. Vivre sans lui. Et l'idolâtrie a fait perdre à Israël son statut, on dirait là, en tout cas, son statut de peuple de Dieu. Mais évidemment, le plus. Et j'imagine que vous attendez ça dans la logique de ce qu'on lit, hein. Ce qu'on attend, c'est une solution à ce problème. Dieu avait choisi son peuple, le peuple abandonne Dieu. Comment on résout l'équation? C'est quoi la dernière partie? Comment on sort de l'impasse? Eh bien, à l'époque, voilà, il fallait un médiateur, et c'est Moïse qui va jouer ce rôle de médiateur et qui va plaider et qui va continuer à assumer ce lien entre Dieu et le peuple. Et puis, on va essayer de voir comment finalement ça annonce déjà le plus grand médiateur, le vrai médiateur, Jésus-Christ. Alors dans ce qu'on a lu hein, de la façon dont Moïse intercède, il y a souvent des questions qui se posent. Et une question qui se pose souvent, c'est est-ce que vraiment Dieu avait prévu déjà qu'il allait pardonner et que le peuple allait rester le peuple? Auquel cas, on se dit, mais pourquoi Moïse a besoin de plaider? Ou est-ce que Moïse avait besoin de plaider pour que Dieu change d'avis? Mais alors dans ce cas-là, est-ce que Dieu est vraiment Dieu si un homme peut le faire changer d'avis? Et on a l'impression que c'est un peu voilà, irréconciliable, et en quelque part, ça l'est. Et moi, j'ai envie de dire, finalement, la réponse, elle est aucun des deux. On ne peut pas savoir vraiment comment ça fonctionne. Est-ce que Dieu avait vraiment déjà décidé par avance? Est-ce que l'intercession de Moïse, quel est le rôle de notre prière dans le fait que Dieu va changer de plan? On ne sait pas ça. On ne sait pas comment Dieu, finalement, adapte son projet à nos prières, ou finalement nous fait rentrer par notre prière dans son projet. Mais je crois que ça nous dit quelque chose de ce Dieu qu'on a chanté ce matin, qui est à la fois souverain sur toute la création et qui a un plan de toute éternité, et devant lequel on pourrait se dire « Moi, il va s'occuper de moi? Je suis qui ?» Devant l'histoire de l'humanité, des millions d'années, la création, tout ça, des milliards d'hommes, et moi? Je compte vraiment? Eh bien oui, c'est bizarre, c'est étonnant, c'est... on se dit, ben... Voilà. Mais finalement, Dieu a cette relation personnelle, et on le voit avec Moïse, il parle avec Moïse comme il parle avec nous, il écoute notre prière personnellement. Et oui, c'est le même grand Dieu qui a ce projet infini, qui en même temps est capable d'entendre chacune de nos prières à un moment particulier. Et ça, c'est pour moi mystérieux. Je crois un sujet d'adoration plus qu'autre chose, un sujet où on reste un peu interloqué, on se dit, bah, on ne prend pas bien, mais je crois qu'on le dit hein, dans nos prières, quand on dit par exemple notre Père qui est aux cieux, c'est notre Père, c'est ce Abba Père qu'on a chanté, qui est très proche, et en même temps qui est aux cieux, qui est donc ce grand Dieu souverain. On a ces deux parties, ces deux aspects de Dieu qui pourtant n'en forment qu'une. Voilà. C'est le même, mais il est à la fois au-delà de nos circonstances et en même temps pleinement dans notre vie privée. C'est un mystère, je ne peux pas vous dire autre chose. On n'arrive pas à bien saisir ça, mais en tout cas, il y a cette intercession de Moïse. Et donc ça nous dit quelque chose à la fois de Dieu, qui prend garde, qui écoute bien Moïse, et puis ça nous dit quelque chose évidemment de ce besoin d'un médiateur. Hein. Et donc, si je reprends la suite, hein, la façon dont les psaumes en parlent, je crois que tout à l'heure je disais le psaume 106, je ne sais plus si c'était le 106, mais il y a un verset dans les psaumes, oui, c'est ça, psaume 106, au verset 23, et il dit, qu'il les eût détruits si Moïse, son élu, ne s'était pas tenu à la brèche devant lui pour détourner sa fureur de sorte qu'il ne les détruise pas. Hein, Moïse qui se tient à la brèche, qui intercède. Et c'est lui le médiateur à ce moment-là et qui va donner des arguments. Alors déjà, premier argument de Moïse, c'est qu'il dit non, attends, c'est pas mon peuple, c'est bien ton peuple. Donc il rappelle à Dieu que c'est bien lui qui a choisi le peuple. Et donc, voilà, finalement, il y a ce lien. Et donc, il peut pas se dédire. Il peut pas ne pas faire attention à celui qui est son peuple. Il lui dit que tu as fait sortir d'Égypte. Et donc, il lui rappelle. Il dit, tu l'as fait sortir et tu l'as fait sortir pour adorer. C'était bien ça, le but. Pour faire resplendir ta gloire dans le monde. Et Moïse va rappeler voilà, cette attente que Dieu avait d'avoir ce peuple qui l'adore. Et puis, j'aime bien ce qu'il dit, mais tu vas pas. Finalement, tu vas pas le faire sortir. Tu vas pas l'abandonner, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont dire, les Égyptiens? Et j'aime bien ce qu'il y a un peu l'aspect réputationnel. Il dit à Dieu, ben, on va se moquer. Est-ce que Dieu fait sortir son peuple pour qu'ensuite les Égyptiens disent, bah, en fait, c'était pour les abandonner? Non, en fait, Dieu peut pas faire ça. Et puis. Il y a l'histoire donc des 3000 Israélites hein, qui meurent. Et le point culminant de ce que Dieu va dire à Moïse, ça vient juste après. Après le verset 29, où je m'étais arrêté tout à l'heure. Hein. Donc il y a ce massacre. Et il arriva le lendemain que Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Maintenant, je monterai vers l'Éternel. Peut-être ferai-je propitiation pour votre péché. » J'ai essayé de faire quelque chose. Et Moïse retourna vers l'Éternel et il dit « Hélas, ce peuple a commis un grand péché, se sont fait un dieu d'or, et maintenant, si tu pardonnes leur péché, sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. » Et ce verset, quand je réfléchis à ce texte, m'a particulièrement frappé parce que je pense que c'est l'argument ultime qu'utilise Moïse et qui finalement annonce quelque part le vrai sacrifice qui pourra être fait. Et Moïse propose quelque chose qu'il ne pourra pas faire, mais il propose de s'offrir lui-même. Et ce qui est impressionnant là, c'est que Moïse, c'est celui qui a reçu la loi avec toutes les indications sur les sacrifices d'animaux, etc. Vous savez, on a lu ça donc dans Lévitique, et avec tous les différents types de sacrifices. Mais là, il comprend bien que ça ne va pas suffire. Et pourtant, c'est lui qui l'a reçu. Il connaît le système sacrificiel. Et en fait, il voit bien que en fait, ce n'est pas ce que cherche Dieu. Dieu, les sacrifices d'animaux, ça ne va pas être l'aboutissement de tout. Il y a besoin d'un médiateur humain qui va s'offrir pour les péchés du monde. Et alors Moïse propose d'être celui-là. C'est pas lui qui va l'être, mais ça nous parle de Jésus-Christ, qui lui va pouvoir être ce Dieu fait homme, parfaitement Dieu, parfaitement homme, à la fois celui qui va offrir le sacrifice et qui va être le sacrifice pour le péché. Celui qui n'a pas connu le péché et qui a été fait péché pour nous, pour que nous soyons justice de Dieu en lui. Et ça, c'est beau de voir que Moïse le comprend déjà là et le propose. Et donc, finalement, comment ça se finit? Ben, on ne veut pas relire tout le chapitre 34, mais peut-être quelques morceaux de ce qui se passe par la suite. Donc, Moïse va intercéder et il remonte sur le mont Sinaï. Et là, il reçoit deux nouvelles tables gravées avec les 10 commandements, parce qu'il avait cassé les premières. Et puis, il va se passer d'autres choses. Dieu va se révéler à Moïse, et il va lui faire voir le plus de gloire possible qu'un humain puisse voir sans mourir. Il va aller jusqu'au maximum de ce qu'on peut révéler sans connaître la mort. Et puis, il y a ces versets au chapitre 34, versets 6 et 7, où l'Éternel passe devant Moïse et crie « L'Éternel ! L'Éternel !» C'est le nom de l'Éternel qui est révélé. Dieu miséricordieux, faisant grâce, lent à la colère, grand en bonté, en vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, et sur les fils des fils, sur la troisième et sur la quatrième génération. Voilà. Il se présente et il donne son nom, l'Éternel, et il dit qui il est. Et ça, mais c'est magnifique parce que ça veut dire que Dieu, finalement, malgré toute cette histoire très compliquée où le peuple s'est détourné, où il a failli être abandonné quelque part, eh bien Dieu là se représente à nouveau comme le Dieu de l'Alliance. Il se présente comme celui qui pardonne les péchés du peuple et qui pourtant ne laisse pas non plus le péché sans punition et le coupable sans punition. Et il est à la fois voilà, celui qui est juste et celui qui fait grâce. Et Moïse s'incline, hein, il adore ce Dieu, et il lui dit hein, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, que les Seigneurs marchent, je te prie, au milieu de nous, car c'est un peuple de courroades, et pardonne-nous nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour héritage. » Et ce qu'il veut là, c'est que finalement, cette menace, ce risque que Dieu ne soit pas au milieu du peuple, eh bien finalement, Dieu accepte de tourner la page quelque part et accepte d'être bien présent au milieu du peuple, parce que c'est ça le plus fort, le meilleur, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et Dieu va répondre en renouvelant son alliance. Et au chapitre 34, on comprend que avec ce renouvellement de l'alliance à partir du verset 10, eh bien, la catastrophe qu'on a connue au chapitre 32, elle est terminée. Et la restauration, elle n'est pas à moitié, elle est complète. Dieu a vraiment pardonné. Et j'ai même l'impression que dans cette deuxième alliance, en tout cas ce renouvellement de l'alliance, c'est même encore meilleur. Parce que Dieu pardonne l'apostasie, il pardonne et il recrée le lien. Il dépasse le jugement qui était légitime et c'est son amour qui triomphe. Et on voit que Dieu aime par-dessus tout. Et même si voilà, il ne pouvait pas ne rien dire face au péché, eh bien derrière, c'est son amour pour le peuple, c'est son amour pour celui qu'il a choisi, ceux qu'il a choisi, qui est plus fort que tout ce qui s'est passé. Alors souvent, on dit, ouais, mais le Dieu, ça c'est le Dieu de l'Ancienne Alliance, le Dieu de l'Ancien Testament, et c'est un Dieu dur. Et c'est un Dieu de colère. Et c'est pas le même Dieu qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, moi je crois que c'est une pensée qui est fausse, et que parce que la Bible nous dit que Dieu ne change pas, déjà, et que finalement, la colère de Dieu, telle qu'elle nous laissait présenter ici, elle n'est absolument pas en contradiction avec son amour. C'est pas soit il est en colère, soit il nous aime. On voit bien dans ce récit que finalement, la colère, elle se manifeste parce que il y a un épisode qui va frustrer cet amour. Parce qu'il y a quelque chose qui risque de détruire l'amour. Et Dieu, il se présente comme lent à la colère. Il veut pas se mettre en colère. C'est pas ça qu'il veut. Et il le répète souvent dans l'Ancien Testament. Et finalement, le jugement, on l'a lu, alors oui, c'est vrai que ce jugement sanglant, il est dur, mais il est limité, finalement. Il a pas passé tout le peuple au fil de l'épée, il les a pas abandonnés. Et surtout, ce qui suit, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a un renouvellement de l'Alliance et il y a pardon. Dieu veut ça par-dessus tout. Et ça nous ouvre la voie vers le pardon par-dessus tout en Jésus-Christ. Le don suprême du médiateur, le seul vrai médiateur, Jésus-Christ, et ce pardon, il continue aujourd'hui. Dieu continue à pardonner et renouvelle son pardon chaque jour pour nous. Et je crois que Dieu ne serait pas vraiment amour s'il n'était pas aussi ce juste juge qu'on voit ici. Et en réfléchissant à ça, je me dis, mais finalement, quand est-ce qu'on est le plus en colère? Qu'est-ce qui nous met le plus en colère dans la vie? Et qu'est-ce qui serait insupportable? Comme vraiment comme quelque chose qui nous arriverait. Et souvent on dit, ben c'est, par exemple, s'il arrivait quelque chose à nos enfants. je pense que ça nous serait insupportable. Et on serait dans une colère terrible. Ou quelque chose à ceux qui sont le plus proches. Mais parce que c'est ceux qu'on aime le plus. Et c'est parce qu'il y a cet amour qui est immense pour nos enfants, pour nos proches. Alors s'il leur arrive quelque chose, on le sent au plus profond de nous. Et je pense que la colère de Dieu, finalement, là, telle qu'on la voit, elle se comprend d'autant plus que c'est parce qu'il nous aime. S'il était indifférent, il ne réagirait pas comme ça. Mais c'est parce qu'il a un amour immense qu'il est tant dans cette colère face à ce qui pourrait nous séparer de cet amour. Si nous, on arrive à le vivre alors qu'on est si limité, imaginez ce Dieu illimité dans son amour, combien voilà, cette colère peut s'exprimer parce qu'il arrive quelque chose à sa créature, qu'il les aime tant, à ce peuple qu'il a choisi. C'est insupportable que quelque chose puisse le séparer d'eux. Et donc, on peut avoir confiance que, puisque Dieu nous aime encore aujourd'hui, eh bien, il n'est pas indifférent à ce qui nous arrive. Et que il se soucie de ce lien qu'il y a avec lui, et il se soucie de ce qui nous arrive, il compte nos cheveux, hein, il nous a dit. Et rien ne peut nous arriver sans que lui le voit, le sache, et sans que ça l'émeuve. On n'a pas affaire à un Dieu impassible. C'est un Dieu qui est plein de cet amour, et plein de ce sentiment de justice qui va avec, et qui maintenant s'exprime en notre faveur. Mais c'est toujours là, et on peut compter sur le fait que Dieu se lève quand il faut. Alors, voilà, peut-être pour conclure, quelques réflexions pour résumer. Hein. Je crois qu'on a tous des histoires de chute dans nos vies. On a tous des histoires d'échecs dans notre louange, des moments où on se détourne de Dieu, on va compter sur un autre Dieu, peu importe le mot qu'on utilise. Mais ce qui est beau de voir, c'est que Dieu veut restaurer la relation. Et combien plus aujourd'hui, puisqu'on sait que rien ne nous séparera jamais de l'amour de Dieu, on sait que quand Dieu restaure la relation, eh bien finalement, il permet une plus grande proximité encore. Et c'est ce qu'on voit avec Moïse qui va aller encore plus loin dans la connaissance de Dieu. Et je crois que la grâce qui surabonde, c'est bien cette grâce qui nous est donnée de pouvoir, dans nos échecs, eh bien finalement être restaurés et comprendre encore un peu plus qui est Dieu dans ces moments-là. Et on sait par la suite que Moïse, quand il s'entretient avec Dieu, ensuite, vous savez, il y a ce moment un peu particulier où le visage resplendit. Et on ne peut pas finalement le regarder tellement il reflète la gloire de Dieu. C'est un peu mystérieux, mais il doit se voiler le visage, il doit se cacher quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui est repris par l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, où l'apôtre Paul fait un parallèle entre la façon dont ça s'est passé pour Moïse et puis la façon dont nous vivons les choses. C'est au chapitre 3, hein, la deuxième épître aux Corinthiens. Et l'apôtre Paul dit, hein, les fils d'Israël ne pouvaient arrêter leurs yeux sur la face de Moïse à cause de la gloire de sa face, laquelle devait prendre fin. Et il dit, voilà, Moïse, c'était temporaire. Combien plus le ministère de l'Esprit ne subsistera-t-il pas en gloire ? Car si le ministère de la condamnation a été gloire, combien plus le ministère de la justice abonde-t-il en gloire ? Car aussi ce qui a été glorifié n'a pas été glorifié sous ce rapport à cause de la gloire qu'il emporte de beaucoup. Car ce qui devait prendre fin a été introduit avec gloire, bien plus ce qui demeure subsistera-t-il en gloire. Et un peu plus loin, hein, jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moïse est lu, le voile demeure sur leur cœur, mais quand ils se tournent vers le Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a liberté. Or, nous, tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en Esprit. La gloire de Moïse, elle était passagère. Mais la nôtre, elle est donnée par l'Esprit Saint. Et la gloire que nous avons, eh bien, elle ne passera jamais. Et finalement, ce que Moïse a vécu temporairement, eh bien, nous vivons, nous dit la parole, en permanence. Nous sommes en permanence dans la présence du Seigneur et nous sommes transformés de gloire en gloire par la présence du Seigneur. Et nous sommes transformés finalement de gloire en gloire à la ressemblance du Christ. Hein. C'est ça qui est dit. Alors nous connaissons l'amour de Dieu qui dépasse cette justice. Nous connaissons celui qui permet que nous restons dans cette relation. Et nous l'avons chanté ce matin et c'est des moments bénis où on peut se rappeler que nous sommes constamment dans cette relation et que nous avons besoin de ce médiateur qui est Jésus-Christ. Alors, essayons de repenser à ces moments et comme Moïse, quand il apprend voilà, finalement que Dieu va marcher au milieu du peuple, eh bien on peut s'incliner, on peut remercier, on peut être encouragé de savoir que nous sommes en permanence, nous, dans la présence de Jésus-Christ, et que Dieu a promis qu'il resterait, qu'il serait toujours dans notre présence quand nous sommes ici, mais aussi dans nos vies quotidiennes. Et c'est une réelle bénédiction de voir que Dieu nous aime à ce point.